Le cocher de tenture, qui, tout bien considéré, n'est qu'une variété assez insignifiante du croque-mort proprement dit, a pour mission spéciale de prêter la main au tapissier et de transporter les objets qui servent à décorer la porte de la maison mortuaire. C'est du reste un fort mauvais farceur, que rien ne recommande et qui pratique une supercherie dont vous me voyez encore tout scandalisé. Quand sa besogne est achevée, il monte chez le trépassé d'un air sentimental, tout en glissant adroitement la demande de son pourboire. Il prie la famille de lui donner n'importe quoi pour aller chercher l'eau bénite nécessaire. Mais au lieu d'aller à la paroisse, l'effronté s'en va tout simplement se rafraîchir chez un marchand de vin, où tandis qu'il s'ingurgite un demi-septier, il remplit le vase à la fontaine. « Au filtré ou au bénite, se dit-il. Qu'est-ce que cela fiche? Les morts ne se plaignent point. » Cela est très vrai, mon garçon, mais ils n'en sont pas moins floués. Ce personnage qui marche en arbalète devant le char et qui porte une écharpe en ceinture, un chapeau à cornes, le frac noir, les petits ou les gros souliers, autrefois les bottes en cœur, le fin ou le gros pantalon, parfois le parapluie, c'est le commissaire des morts, ou plutôt monsieur l'ordonnateur. Comme il s'imagine représenter monsieur le maire, qui n'a pas le temps de venir, et doubler monsieur l'ordonnateur général, le drôle n'est pas sans quelque penchant à la suffisance, et ne serait pas éloigné de prendre sa canne ornée d'une urne cinéraire pour un sceptre et de se prendre lui-même pour une majesté. Quelques-uns, cependant, ont des mœurs plus terrestres, et sans grand souci pour leur blason, trinquent avec les officiers de l'église ou les cochers, et liche très volontiers le canon sur le comptoir. Pour faire un ordonnateur ou commissaire des morts, la préfecture, car c'est elle qui les fournit, prend d'ordinaire son candidat parmi les journalistes incorruptibles, ou les préfets, tombés en déliquium. Quand survient un mort de première classe, ou du moins de bonne qualité, messieurs les hauts employés des pompes funèbres quittent brusquement la plume pour l'épée, l'habit râpé du commis pour le pourpoint, et le mantelet, et le chapeau rond pour les panaches, et se transforment tout à coup en ce noble et imposant personnage dont voici un crayon délicieux et fidèle de notre cher Henri Monnier. Ainsi travesti, ce majestueux mercenaire prend le titre fastueux de maître des cérémonies. En effet, c'est lui qui dirige le cérémonial voulu, l'ordre et la marche, qui indique aux gens du convoi la manière de s'en servir. C'est une espèce de garçon d'honneur donnant le branle et menant la mariée. Comme il porte le haut de chausse, ses grandes jambes jouent chez lui un très grand rôle et sont dans son affaire de première importance. Un maître des cérémonies complet coûte 10 francs, mais on peut en avoir un sans mollet pour 8. Un cagneux ne vaut que 7 et pour 3 livres 10 sous, autrefois il y en avait à jambes torses. Mais hélas, l'entreprise des pompes a fait aussi sa révolution, et chaque jour, ainsi, des détériorations physiques et morales y sont apportées. La décence et le luxe y remplacent de plus en plus, et d'une façon désespérante, l'antique et primitive simplicité. On y pousse aujourd'hui la folie jusqu'à tresser la crinière et la queue des chevaux, comme la blonde chevelure de nos maîtresses, jusqu'à parer leur front d'une cocarde, jusqu'à vernir leurs sabots. En un mot, les morts trouvent maintenant aux pompes, à toute heure, un excellent confortable. les vivants, les attentions les plus délicates, et jusqu'à des habits de deuil, tout faits et alloués. Il y a même pour les envois en province des berlines ravissantes, éblouissantes, où le trépassé pourrait au besoin se mirer. La case dans laquelle le défunt se loge est si heureusement dissimulée que j'ai vu plus d'une fois à Longchamp figurer incognito ces élégants équipages. Quand un cocher part pour un transport, soit pour mener ou ramener feu Monsieur le Carabas dans ses terres, soit pour conduire outre-mer quelques baronnets venus chez nous pour apprendre les belles manières, mais morts à la peine, il emporte d'ordinaire avec lui une grande provision de poudre et d'arquebuse, et tout le long de son chemin, il fait une guerre terrible. Chaque pièce qui tombe sous ses coups est cachée adroitement dans les profondeurs de la berline, et c'est une chose assez plaisante au retour du voyage que de voir déballer cette espèce de bourriche et débarquer en compagnie de saucissons passés en fraude une myriade d'écureuils de bécassine ou de lapin. Mais comme il en coûte 10 francs par poste pour faire voyager ainsi les os de ses pairs, bien des gens d'ordre d'économie les mettent tout bonnement au roulage. Un jour que je me trouvais chez un jeune député de ma connaissance, j'entendis tout à coup s'arrêter un camion à la porte. On sonne, j'ouvre, et l'on me remet un papier. « Qui est-ce ? » s'écrie notre célèbre représentant. Je dépliai alors le papier et je lus « La Bastide et Simon Frère, commissionnaire chargeur à Marseille. » À la garde de Dieu et sous la conduite de Jean-Pierre Voiturier, nous avons l'honneur de vous faire passer la dépouille mortelle de Monsieur le Comte de, à raison de 5 francs les 100 kilogrammes, prix convenu. Ah, je sais, fit alors mon noble ami, c'est feu mon respectable père qu'on me renvoie. Puis, se tournant de mon côté, ah, tu es bien heureux, mon cher, d'être orphelin, me dit-il avec un sourire aimable. Ces gueux de parents, ça vous ruine, ça n'en finit pas. Au Père Lachaise, sur la simple présentation d'une lettre de voiture ou l'estampille de la douane, le conservateur reçoit les morts à bras ouverts. Mais si par hasard leurs papiers ne sont pas en règle, s'ils ont perdu leur passeport, on les traite de vagabonds et de républicains. Et il court grand risque de coucher au corps de garde. 18 rue Saint-Marc-Feydeau, il existe aussi depuis quelques années, sous le titre de Compagnie des Sépultures, une magnifique succursale de la grande entreprise du Faubourg Saint-Genis. Cet établissement est vraiment si rempli de commodités que nous ne saurions le passer sous silence dans une criante injustice. Avez-vous fait une perte? Allez là. Moyennant une faible reconnaissance, on s'y charge de tout régler et de tout ordonner depuis A jusqu'à Z, avec l'Église, comme avec les pompes, y compris les distributions de vos aumônes. Si bien qu'une fois votre commande faite, vous n'avez plus à vous occuper du défunt, pas plus que s'il n'existait pas, et vous pouvez partir tranquillement pour les courses de Chantilly ou pour le couronnement de la reine d'Angleterre ou de la rosière de Bercy. Joint à cet établissement, ajoutez s'il vous plaît qu'il y a pour le plus grand agrément des visiteurs une exposition perpétuelle de petits sépulcres, de petits jardins funèbres, de tombeaux grands comme la main, d'urnes imperceptibles, de cercueils portatifs, le tout à prix fixe et dans le dernier goût. C'est à vous de choisir parmi tous ces ravissants échantillons. Voudriez-vous par hasard faire embaumer l'objet de vos regrets éternels? On vous présentera une jeune fille, un canari, un poulet, injecté depuis 3 ans par Monsieur Ganal, encore aussi frais, aussi appétissant que s'il sortait de chez le marchand de comestibles. Cette compagnie, ainsi que messieurs les marbriers et tous les ouvriers des cimetières, nourrit au dehors une multitude de courtiers et de droguemans, le nombre en est dit-on formidable, qui, toujours à la piste des moribonds, des valétudinaires et des morts, aussitôt que vous êtes enrhumé, que vous avez rendu l'âme, se précipitent à votre porte, où par jalousie de métier, souvent, ils se livrent de sanglants combats et périssent. Quelquefois, ces industriels poussent l'adresse et la sollicitude jusqu'à graisser la patte du portier pour qu'il les vienne avertir dès que le malade aura tourné l'œil et favorise leur introduction à l'exclusion de tout autre. Madame, un monsieur tout en noir et qui paraît prendre une part bien vive à votre deuil demande à être conduit auprès de vous. L'inconnu entre d'un air pénétré et le mouchoir à la main. La dame s'incline et fait signe à l'homme attendri de s'asseoir. Oh, vous avez fait une grande perte, madame. Oui, monsieur, bien grande, bien douloureuse. Ah oui, bien douloureuse et dont je ne saurais jamais me consoler. Madame, oh, que souvent le destin est cruel. Ah, vous êtes bien bon, monsieur, de m'apporter quelques douces paroles, mais je crois n'avoir pas l'honneur de vous connaître. Que me voulez-vous? Oh, je sais, madame, qu'il n'est rien qu'une mère ne fasse pour la mémoire d'une fille chérie, hélas, que ce monde est plein de tristesse. Je suis courtier, madame, près de la compagnie des sépultures, ou courtier particulier de monsieur de la Fosse, fabricant de sarcophages, et je venais voir, madame, si par hasard vous n'auriez pas besoin d'un tombeau. Nous en avons de neuf et d'occasion. Et dans le dernier genre. À ces mots, notre homme essuie une bordée terrible, mais il est à l'épreuve du feu. Comment, monsieur? Vous n'avez donc ni cœur ni âme pour venir troubler ainsi une pauvre femme dans sa solitude et son désespoir? Mais c'est une abomination! C'est une honte, le métier que vous faites! Et là-dessus, on le jette à la porte, et il revient le lendemain, car rien ne saura l'arrêter jusqu'à ce qu'il vous ait extorqué quelques ordres. Il n'y aurait qu'un moyen de se défaire d'un pareil misérable. Ce serait de le tuer, mais la loi, jusqu'à ce jour, n'y autorise que faiblement. C'est au faubourg du Roule, chez un illustre ébéniste, nommé on ne peut plus heureusement Monsieur Homo, que se fabriquent les cercueils de chêne et de palissandre, les cercueils marquetés, guillochés, damasquinés, à compartiments secrets ou à musique. Mais la grande manufacture des bières à l'usage de la canaille, c'est-à-dire des bières de bois blanc, est établie au village de la gare. L'ouvrier qui en a l'entreprise est tenu dans l'obligation d'en avoir toujours au moins 6 000 de faites, et dans chaque mairie une bonne collection. Ce tailleur suprême qui enfonce Zang, Staub et Duss au toit fait à ce métier sa fortune, tout comme messieurs les vaudevillistes des pompes de leur côté font la leur. C'est une chose bien curieuse que l'énorme quantité de vivants qui vivent à Paris de la mort. Sans la population souterraine, un tiers de la garde nationale serait sans ouvrage et sans pain. Aux carrosses de luxe, il faut un attelage de luxe. Il faut des fleurs à la beauté. Il faut des perles au poignard. Aussi n'est-ce point notre héros, ce mince et chétif personnage qui jouit de la douce faveur d'ensevelir les heureux du jour et de les mettre dans leur cercueil, Boule ou Charles Ier. Non, mon cher marquis, Il y a un gros garçon tout exprès pour cela, fleuri, potelé, presque un amour. Ce beau mignon, vous l'avez vu sans doute, il est très reconnaissable. Il porte toujours sur l'épaule un sac énorme en guise de carquois. Car il faut vous dire que pour épargner au cadavre super fin toute émotion et tout cachot désagréable, bien que leur cercueil soit matelassé et garni d'oreillers comme un boudoir, on les enterre à bouche que veux-tu, dans le son. Tout le monde connaît la triste et philosophique et populaire composition de Vigneron, cet honnête et modeste peintre, je veux dire le convoi du pauvre. Dans le char de l'indigence, un homme obscur gagne silencieusement son dernier asile. Sans cortège et sans apparat, il passe comme il a vécu. Trahi par la fortune, abandonné des siens, un seul ami lui reste et le suit. Et cet ami, c'est son chien, un pauvre barbet, portant la tête basse et enfoui sous les soies longues et crottées de sa toison inculte. Ce tableau simple et déchirant, Vigneron l'a fait. À Biarry, il en reste un autre, moins sombre et que son pinceau railleur reproduirait merveilleusement. Celui-là, je l'ai vu, de mes propres yeux vus. C'était un homme, oh, sublime philosophie, qui, seul derrière un corbillard, suivait les restes de sa défunte adorée et fumait tranquillement sa pipe. Il va sans dire que ce sont les croque-morts de la métropole que nous avons pris pour type et archétype. Ceux des provinces varient à l'infini, mais au demeurant, ils ne sont toujours pas des provinciaux. J'en ai rencontré dans quelques villes qui ressemblent assez par le costume à des marchands arméniens d'Archangel et d'autres qui m'ont paru un assez heureux mélange, le charbonnier et du rabbin. L'usage des chars, qui fait dire au peuple de Marie « En tout cas, nous sommes sûrs de ne pas nous en aller à pied » ou « Viendra un jour où, ventre bleu, à notre tour aussi, nous éclabousserons » n'est pas généralement adopté et ne le sera pas de sitôt sans doute. Beaucoup de villes regardent encore ce mode de transport funèbre comme un véritable sacrilège et il n'y a pas fort longtemps, même qu'à Moulins, la populace a jeté dans l'Allier un malencontreux corbillard qui avait osé se montrer par la ville. La gaieté qui règne chez nos aimables vaudevillistes du faubourg, tout héliogabalique, toute sardanapalesque, toute exorbitante qu'elle a pu vous sembler, est bien échue cependant de son antique splendeur. Hélas, ce n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il fallait voir avec quelle magnificence inouïe se célébrait autrefois le jour des morts. Le jour des morts, c'est la fête des pompes, c'est le carnaval du croque-mort. Qu'il semblait court ce lendemain de la Toussaint, mais qu'il a été brillant. Dès le matin, toute la corporation se réunissait en habit neuf, et tandis que messieurs les fermiers dans le deuil le plus galant, avec leurs crispins jetés négligemment sur l'épaule, répandaient leur libéralité, les vers et les bros circulants ont vidé sur le pouce une feuillette. Puis un héros, ayant sonné le bout de sel, on se précipitait dans les équipages, on partait ventre à terre au triple galop, et l'on gagnait bientôt le feu d'enfer, guinguette en grande renommée dans le bon temps. Là, dans un jardin solitaire, sous un magnifique catafalque, une table immense se trouvait dressée. La nappe était noire et semée de larmes d'argent et d'ossements brodés en sautoir, et chacun aussitôt prenait place. On servait la soupe dans un cénotaphe, la salade dans un sarcophage et les anchois dans des cercueils. On se couchait sur des tombes, on s'asseyait sur des cippes, les coupes étaient des urnes, on buvait des bières de toutes sortes, on mangeait des crêpes, et sous le nom de gélatine moulée sur nature, d'embryons à la béchamel, de capilotates d'orphelins, de civets de vieillards, de suprêmes de cuirassiers, on avalait les mets les plus délicats et les plus somptueux. Tout était à profusion et en diffusion. Tout était servi par montagne. Au prix de cela, les noces de Gamache ne furent que du carême, et la kermesse de Rubens n'est qu'une scène désolée. Les esprits s'animant et s'exaltant de plus en plus, et du choc jaillissant mille étincelles, les plaisanteries débordaient enfin de toutes parts, les bons mots pleuvaient à verse, les vaudevilles s'enfantaient par ventrées, on chantait, on criait, on parlait des santé aux défunts, des toasts à la mort, et bientôt se déchaînait l'orgie la plus ébouriffante, l'orgie la plus échevelée. Tout était culbuté, tout était saccagé, tout était ravagé, tout était pêle-mêle. On eût dit une fosse commune réveillée en sursaut par les trompettes du jugement dernier. Puis, lorsque ce premier tumulte était un peu calmé, on allumait le punch et à sa lueur infernale, quelques croque-morts ayant tendu des cordes à boyaux sur des cercueils vides, ayant fait des archets avec des chevelures et avec des tibias des flûtes tibicines, un effroyable orchestre s'improvisait et la multitude, se disciplinant, une immense ronde s'organisait et tournait sans cesse sur elle-même en jetant des clameurs terribles comme une ronde de damnés. Le punch et la valse achevés, on remontait gaiement dans les chars, on regagnait promptement la ville et l'on venait souper en masse au café anglais. C'était alors un bien étrange spectacle que cette longue enfilade de carrosses de deuil et de corbillards, stationnant sur le boulevard de la Fashion, à la porte d'un cabaret de bon ton, d'une popine, d'un calix thermarum, comme eût dit Juvénal, et dans l'intérieur, ce n'était pas, je vous prie, un spectacle moins bizarre que ces deux bandes joyeuses de farceurs en costume funèbre, attablés avec des lions et des filles, sablant le madère et le chéri et chantant le God Save the King sur l'air de la mère Godichon. Mais hélas, que les temps sont changés. Aujourd'hui, cette brillante fête à peu près abolie ne se signale plus au croque-mort consterné que par une misérable gratification de 3 livres, et pas sterling, 3 francs, 3 misérables francs. Avec cela, que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut ni acheter un chlysopompe, ni coucher en ville, ni suborner la reine de Prusse, et encore moins souscrire aux Français peints par eux-mêmes ou aux Anglais. Cependant, gardez-vous de croire que toute tradition de ces réjouissances soit à jamais perdue et qu'elle n'ait laissé dans les mœurs aucune trace. Un riche et copieux banquet, mêlé de farces et d'intermèdes, a été donné il n'y a pas fort longtemps même par le menuisier qui façonne les boîtes de luxe dont je vous parlais tout à l'heure. Et il se passe rarement plus d'une année sans que les pompes ne soient le théâtre de quelques nouvelles et délicieuses bouffonneries.